Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici pour méditer ta parole. Nous te remettons ce temps. Alors que nous allons méditer parmi les plus anciens enseignements que tu as donnés au peuple d'Israël. Chacun d'entre nous en a entendu parler, probablement. Certains d'entre nous connaissent un peu plus que d'autres. Mais tous, nous avons quelque chose à apprendre. Que ce soit moi ou chacun d'entre nous ici présents. Merci de nous donner l'humilité d'avoir l'oreille ouverte à ton enseignement aujourd'hui et qu'on puisse prendre ce que tu veux nous donner. Utilise-moi comme un canal qui est simple afin que tu te glorifies, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous avez peut-être remarqué ces derniers temps des voitures qui se baladent autour de chez vous. Qui a entendu des haut-parleurs pendant la semaine en disant « Votez pour un tel, votez pour tel autre ». Vous avez entendu un peu ça ? Ça réveille les petits à la sieste. Ça empêche des gens qui veulent donner des cours ou discuter tranquillement. Ça fait un petit peu tout. Je ne pense pas que l'effet est forcément toujours joyeux. Mais le but et l'espoir, c'est que les candidats vont pouvoir faire entendre ce qu'ils ont à dire et que finalement, ils vont pouvoir dire des choses qui vont convaincre certaines personnes de voter pour eux. Aujourd'hui, vous avez remarqué probablement, il y a beaucoup de gens qui sont dehors de chez eux, qui sont en train d'aller aux zones de vote où on va pouvoir voter. À l'île de la Réunion, c'est le jour des premiers tours des élections cantonales. Détail pratique, à l'église, notre préoccupation n'est pas de parler des différents candidats, donc c'est plus pour moi au niveau sociologique de vous décrire cela. Parce que j'aimerais vous dire que les élections sont un moment important de la vie. Et j'aimerais vous parler d'une des plus anciennes élections au monde. Une des élections qui a eu place il y a à peu près 3000 ans. En vous rappelant qu'une élection, ça ne marche pas que dans un sens. Les élections aujourd'hui, on a l'impression, nous on va choisir un candidat. Mais j'aimerais vous dire, si le candidat que nous choisissons en tant que citoyen français par exemple, est un candidat qui ne nous choisit pas, c'est dangereux. Il faut que le candidat choisisse quoi ? Choisisse de faire le bien des personnes pour qui il est élu, tout comme les personnes qui se retrouvent élues par ce candidat ont aussi élu. Ça marche dans les deux sens. Sinon, c'est dangereux. Imaginez que vous élisez un candidat qui, lui, ne vous a pas élu, qui a élu seulement son portefeuille. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va faire plaisir à son portefeuille et pas à nous, si on l'a élu. Ou bien à autre chose. Et c'est tout le casse-tête. Dans une élection, ça marche dans les deux sens. Alors, quelle est cette élection si ancienne, qui a plus de 3000 ans, qui avait eu lieu et dont on entend parler dans la Bible? On n'y pense pas comme ça, la plupart du temps. C'est l'élection que Dieu a fait de son peuple. Vous savez comment il s'est défini ce peuple, tellement il était fier que Dieu l'ait choisi? Il a dit, nous sommes le peuple élu. On était élu. On a voté pour nous, Dieu a voté pour nous. Ils avaient oublié un petit détail, c'est qu'eux devaient aussi élire Dieu et qu'ils n'étaient pas élus pour se croire supérieurs aux autres, mais pour partager avec les autres ce qu'ils avaient reçu. Ils étaient élus à être un grand frère et non pas un fils unique. Dans la foi chrétienne, on n'est jamais invité à être des chouchous de Dieu. Dieu n'a pas de chouchous. Dieu, s'il existe et s'il est le Dieu dont Jésus nous parle, c'est un Dieu qui aime, comme on entendait dans le chant, une chaîne d'amour. Son but, c'est qu'on ait des communautés, des relations entre personnes qui soient marquées par l'amour et non pas par l'intérêt, le mépris, des attitudes qui ne sont pas justes. Et cette élection, pour qu'elle fonctionne, il va falloir qu'il y ait un oui des deux côtés. Dans l'Ancien Testament, le peuple juif s'était posé la question, pourquoi est-ce que les 10 commandements ont été donnés si tard? Pourquoi Dieu, il n'a pas dit, Abraham, tiens, c'est les 10 commandements, je vais t'expliquer, puis tous les suivants, tu vas leur expliquer qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et un des commentaires les plus anciens, celui-là il a à peu près 2000 ans d'ancienneté, ça s'appelle la Mechilta de Rabbi Ishmael, un vieux rabbin du temps juste après Jésus, qui avait médité aussi sur cette histoire, de se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu a attendu plus de 500 ans à peu près, 400-500 ans, entre le temps où il parle à Abraham, qui est l'ancêtre du peuple d'Israël, et le moment où il parle à travers Moïse au peuple d'Israël? Pourquoi Dieu il attend 500 ans pour dire ce qu'il veut? Et cette histoire raconte, imaginez un homme qui viendrait dans une ville et qui dise, je veux être votre roi. Et la ville lui dit, écoute, reste de ton côté, nous ne voulons pas, nous. On ne connaît pas, on ne sait pas, il n'y a aucune raison pour laquelle on veuille que tu sois roi. Ensuite, cet homme commence à aider à bâtir des murailles autour de la ville. Commence à aider à creuser des canaux pour amener l'eau à l'intérieur de la ville. Aide à structurer la ville pour que finalement il y ait des bonnes choses pour les gens. Et ensuite il leur repose la question, il leur dit, est-ce que vous voudriez de moi comme roi? Et là le peuple, à l'unanimité, lui dit, oui, s'il te plaît, c'est nous qui voulons que tu sois notre roi. Quel est le parallèle avec les 10 commandements? Les 10 commandements, le peuple d'Israël a été en Égypte. Ça s'est bien passé au début. Ils avaient même un des leurs qui était le premier ministre. Mais ça a commencé à devenir difficile. Après que ce arrière-arrière-petit-fils de Abraham, qui s'appelait Joseph, ait été premier ministre en Égypte. Ensuite, les suivants, il y a eu un pharaon qui était méchant, qui, au contraire, lui s'est dit, ce petit peuple, il est en train de grossir. Ils ont beaucoup d'enfants. J'aime pas ça. Parce qu'ils vont devenir forts et puissants et ils vont avoir trop d'influence, et s'il y avait des gens qui nous attaquent, peut-être qu'eux s'allieraient avec les opposants. Et dans ce cas-là, c'est dangereux. On va essayer de les détruire. Et c'est l'histoire qu'on lit dans le deuxième livre de la Bible, dans l'Exode, dont on a parlé il y a quelques semaines. Comment le Pharaon, qui est le roi d'Égypte finalement, Pharaon c'est le nom pour le roi, comment le Pharaon va essayer de détruire le peuple d'Israël. Et comment il va échouer? Pourquoi il va échouer? On va voir un Dieu qui aime son peuple, qui va protéger son peuple, qui va dire à Pharaon, tu ne peux pas faire ça, je vais protéger mon peuple. Et il va faire des miracles, ce qu'on a appelé les 10 plaies d'Égypte, en disant, si tu fais du mal, moi je te punis. Quand quelqu'un est mauvais, vous pouvez essayer de dire, écoute, il ne faudrait pas faire ça, c'est pas bien. Et vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas. Si vous avez des enfants et que vous essayez de raisonner vos enfants, vous allez leur dire, et si Thierry et Sandrine m'autorisaient, on va prendre un exemple d'un de vos enfants et vous lui dites, écoute, Loris, on va discuter avec toi. Vraiment, c'est pas bon de casser les jouets de ton frère Maé. Il faut pas, tu sais. Est-ce que ça a marché? Déjà, il comprendra un petit peu, puis... Par contre, si vous lui dites, si tu fais ça, tu vas avoir une punition. Laquelle méthode va marcher le mieux? Est-ce que c'est plaisant de donner des menaces? Non. Les conséquences négatives de nos actes sont la première façon de nous enseigner. Quand on est enfant, c'est comme ça que l'on commence. On nous met un cadre. C'est de loin, pas la fin. Ce n'est pas le but. Le but n'est jamais de finir avec ça. Le but, c'est des enseignements positifs en disant comment faire plaisir à l'autre. Et c'est Jésus qui va y arriver une fois qu'il y a ce fondement qui est mis. Sans ce fondement, vous ne pouvez pas passer à l'étape de Jésus. Pour arriver à Jésus, vous devez commencer par les fondements négatifs. C'est ce que je vais vous donner un secret, c'est ce qu'ils sont en train de faire à l'école du dimanche. Avec Sandra, on discutait, elle disait comment on va faire pour qu'il y ait une bonne discipline à l'école du dimanche afin qu'il y ait enseignement. Parce que sinon, s'il y a un enfant qui commencent par crier, qu'est-ce qu'ils vont faire les autres? Ils crient. Il y en a un qui donne un coup, les autres donnent un coup. Et en général, ça marche comme ça. Quand on vous donne un coup, quand vous êtes petit, hein, quand on est adulte, on commence à être un peu plus modéré dans ces points-là. On va essayer de faire plus mal à celui qui nous a fait mal pour qu'il comprenne. Qu'il comprenne qu'il ne faut pas qu'il nous fasse ça. Et l'autre qui a reçu plus mal de mal que ce que vous lui avez fait, lui, il n'a pas senti le mal qu'il vous a fait. Et il trouve que c'est très douloureux ce que vous lui avez fait. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il se dit, c'est pas juste. Il m'a fait plus de mal que moi ce que je lui ai fait. Qu'est-ce qu'il va faire en retour? Pam! Il m'a marché sur le pied. Moi, je vais lui taper dans le ventre. Escalade. C'est comme ça avec les enfants. Si vous ne donnez pas de règles, il va y avoir une escalade de violence qui ne va s'arrêter que par des pleurs quand il y en a un des deux qui a eu tellement mal qu'il n'arrive plus à répondre à la violence de l'autre. Vous savez comment on appelle ça? Ces petits combats entre enfants? Dans le monde, il y a un terme qui avait été utilisé, c'était la vendetta. En Italie, c'est encore utilisé. La vendetta, c'est quoi? Tu m'as volé mon chien, je te vole ton bœuf. Tu as tué mon petit frère, je tue trois personnes de ta famille. Et dans la mafia italienne, c'est ce qui se passe. S'il n'y a pas de règles de base dans toute communauté, ça ne fonctionne pas. Imaginez l'État français qui décide finalement, on va enlever tous les panneaux de circulation et on va laisser les gens conduire comme ils veulent parce qu'ils sont adultes maintenant, ils ont passé le permis, on considère... Est-ce qu'à votre avis, ça fonctionnerait? En disant, vous pouvez dépasser, on laisse les panneaux, mais si vous dépassez la vitesse, c'est pas grave. Vous pouvez aller à 200 à l'heure sur l'autoroute. Vous imaginez les jeunes qui font leurs courses de moto, qui commencent à faire leurs courses non pas pendant la nuit, ce qui n'est pas autorisé, mais pendant la journée. Qui aurait envie d'aller sur l'autoroute avec des gens qui roulent à 200 à l'heure, avec des voitures qui sont avec des roues mal gonflées ou quoi que ce soit? Ça serait dangereux pour tout le monde. C'est une base de toute communauté. Il faut qu'il y ait des règles. Et là, ils sont en train de définir et les règles ne fonctionnent que si elles sont agréées par les deux. C'est ce que les maîtresses ont, découvert il y a déjà longtemps. Par exemple, il y a une règle ici. Le petit Maé n'a pas le droit de dépasser la chaise. S'il veut dépasser la chaise, il va avoir des problèmes et on sait que c'est pour son bien. Mais il va falloir affirmer cette règle, quitte à donner une petite correction. La correction, c'est déjà de ne pas l'autoriser. Et on n'est pas forcément content quand il y a une correction. C'est le vent. Et finalement, j'aimerais vous dire, c'est une des fondations de toute communauté. On commence par dire ce qu'il ne faut pas faire. Et ce petit exemple nous aide à prendre conscience de ce dont on parle aujourd'hui. Les 10 commandements ne sont donnés qu'après que Dieu ait délivré son peuple d'un esclavage horrible, où ils avaient un maître mauvais qui ne voulait pas leur bien, qui ne leur donnait pas des règles pour leur bien, mais qui donnait des règles pour les détruire. Il leur disait, vous ne ferez plus des briques avec de la paille, vous devrez trouver de la paille. Et ils étaient en train de mourir au travail, ces gens-là. Esclavage, et le but c'était de les tuer. Et là, Dieu va les délivrer. Quand l'armée de Pharaon va les poursuivre dans le désert, qu'est-ce qu'il va faire, Dieu? Bon, ça, c'est un des films des 10 commandements. Il ouvre la mer pour que le peuple puisse s'en aller. Quand ils sont coincés avec la mer d'un côté et les chevaux de Pharaon et l'armée de Pharaon de l'autre côté, Dieu va ouvrir la mer et ils vont pouvoir traverser. Et quand Pharaon va vouloir suivre, la mer va revenir. C'est pas la méchanceté de Dieu. C'est juste que lui, il a ouvert un passage pour son peuple, pas pour les autres qui veulent détruire. Et les autres vont être détruits par leur méchanceté. Ça, c'est le contexte des 10 commandements. Ensuite, maintenant, nous allons regarder cette feuille. Et les 10 commandements, en général, on oublie de lire la première phrase qui vient juste avant qu'on les commence, ces commandements. Cette phrase juste avant, c'est la phrase qui est écrite en blanc. Vous avez remarqué, les numéros 1, 2, 3, 4 sont du quel côté? Gauche ou droit? À droite. C'est pas normal. Quand on lit, ça commence par la gauche à la droite. Vous avez une idée pourquoi c'est la droite au lieu de la gauche?
Oui.
Alors, Colline et Dominique, je vais être obligé de vous dire, n'aidez pas trop les autres, vous en connaissez trop pour les autres. Et Colline a raison. Ça va, Colline et Dominique? Je vous demande de laisser les autres... parce que eux connaissent un petit peu moins. Pour l'instant, hein, je crois. Donc c'est parce que c'est de l'hébreu. En hébreu, on écrit comment ? On écrit de la droite vers la gauche. Ils ont été donnés en quelle langue, les ces commandements ? En français ?
En hébreu.
En anglais ? En créole ? Non, en hébreu. Et donc, comme c'est en hébreu, bah c'est pour vous rappeler cela, quand on lit de la droite vers la gauche. Les petits caractères gris derrière, vous voyez les sortes de pattes de mouche derrière ? Ça, c'est le texte véritable des 10 commandements en hébreu qui a été donné à Moïse. Alors, pour vous aider un petit peu, je me suis dit, peut-être si je vous laisse que l'hébreu, ça ne va pas être très rigolo. Je vous ai mis un petit peu de français aussi. Mais avant de mettre le premier commandement, est-ce que je pourrais demander à Alexandre de nous lire qu'est-ce qu'il y a en blanc au-dessus du premier commandement ? Ça, c'est l'introduction pour les 10 commandements. Je dois vous donner une information. Les 10 commandements, vous avez un grand texte. En hébreu, on dit les 10 paroles. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur comment on coupe, on saucissonne le texte en 10 morceaux. Chez les catholiques, par exemple, ils saucissonnent un peu différemment de chez les protestants. Chez les catholiques, les commandements 9 et 10 sont regroupés en le commandement 10 est coupé en 2 morceaux.
Donc il n'y avait pas de numéro en fait.
Il n'y a pas de numéro dans le texte biblique.
C'est
un texte complet. Les catholiques coupent le 10 en 2 morceaux. Nous, c'est les 1 et ils mettent le numéro 1 et 2 ensemble. Ils disent, ah, ça va être ne pas avoir d'idole, les 1 et 2. Les juifs, eux, ils vont avoir une autre chose, ils vont dire le premier commandement. Ça va être ce qu'on vient de lire, ce texte en blanc. « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. » Vous êtes d'accord que ça puisse être un commandement, ça ? Donc ils ont raison aussi ? Qui a raison alors ?
Tout le monde, c'est le texte.
Tout le monde. Tout à fait. Il n'y a pas de quelqu'un qui a raison ou qui a tort. C'est différentes façons. Le but, c'est de connaître ce qu'il y a dedans. Je dirais, vous pouvez vous battre en disant « Ouais, les catholiques ont raison. Ouais, les protestants ont raison. Ouais, les juifs ont raison. » Je vous dis entre autres un petit détail, les orthodoxes et les luthériens, c'est une petite partie des protestants. Ils ont encore une autre façon de faire. Donc, ne vous inquiétez pas. Là, vous apprenez la façon protestante. Si vous voulez voir chez les catholiques, ça sera le 1 et 2 rappelez-vous qui combine les deux premiers et qui sépare le dernier en deux. Mais du côté protestant, ça sera comme ça qu'on les mémorise et qu'on les apprend. Chez les juifs, leur raison, et Colline, tu as tout à fait raison de dire ça peut être un commandement, vous avez raison, je suis ton Dieu, et dans ce premier commandement pour les juifs, ça ne sera pas le numéro 1 pour nous, mais je l'ai mis parce qu'il est important ce texte, c'est se rappeler que Dieu a délivré Israël d'Égypte. Dieu a fait du bien. Dieu a vraiment aidé son peuple au bien. Si vous avez un candidat qui se présente aujourd'hui pour être élu au cantonal, qui a fait beaucoup de bien pour l'île de la Réunion, qui n'est pas fait de recrutement familial, qui n'est pas construit des routes mal construites, qui n'est pas passé son temps à détruire les autres candidats, qui a montré quelque chose de positif. Est-ce que vous seriez prêt à voter pour ce candidat ? Qui a donné des écoles où on pouvait avoir, pour tous les enfants, un bon, par exemple, comment ça s'appelle, les centres aérés pour les vacances ? Que même si on soit nouveau à l'île de la Réunion, où qu'on soit, il y ait une possibilité. Est-ce que ça serait bien, ça, pour des parents ? Et s'il y avait, vous imaginez, je vous donne des exemples pratiques. Concrètement, on aurait envie de voter pour des gens qui ont fait des choses comme ça ? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on se dirait, cette personne veut mon bien. Si elle veut mon bien, moi je la veux comme mon chef, comme la personne qui me représente, comme la personne qui dirige ces choses qui me dépassent. Et qui m'enseigne, qui me donne de nouvelles règles s'il y a besoin. C'est ce qui se passe avec cette introduction. On se rappelle qu'il a fait du bien. Et comme il a fait du bien, le peuple d'Israël va répondre. Et c'est ce qui va se passer. Dieu va élire son peuple, va leur dire « Je veux que vous soyez mon peuple ». Et le peuple d'Israël va voter à l'unanimité. Moïse va leur dire « Est-ce que vous voulez respecter ces commandements ?» Plusieurs fois dans l'histoire d'Israël, il y aura des votes. Et tout le monde va voter. Oui, nous voulons. Il y a des moments où tout le monde ne voulait pas voter. Il y a un moment, il y a eu la révolte de Corée. Corée, il a dit « Moi, je ne veux plus de ce Dieu, surtout de ces autres qui disent qu'eux, ils sont les responsables que Dieu a choisis. » Donc, ils vont s'opposer. Et à ce moment, Moïse va dire « Bon, ben, tous ceux qui sont du côté de Corée, vous vous mettez avec lui, et tous ceux qui sont avec moi, vous vous mettez avec moi. » Et Dieu va voter. Et à chaque fois, Dieu vote. Mais soyez conscients que si c'est Dieu qui est celui qui donne la vie, ben, il va y avoir des conséquences si on rejette ce Dieu d'amour et de vie. Je ne suis pas en train de vous dire de faire partie de groupes hypocrites qui ne vivent pas leur foi. Je vous parle du Dieu vivant qui est le Dieu d'Israël. Et ça, c'est ce qui va se passer plusieurs fois. Une des fragilités des communautés internationales modernes, vous savez qu'est-ce que c'est cette fragilité ? C'est qu'on vote pour une personne, mais on ne vote pas pour l'État. On ne vote pas pour accepter tout ce qu'il y a déjà en place. Ce qui fait qu'on va dire « ces lois étaient là avant que je vienne, mais moi je ne suis pas d'accord qu'il faille que j'aille à 50 à l'heure à tel endroit ou à 70 à l'heure sur la route du littoral. C'est stupide. Moi je veux aller à 90 tout le temps par exemple. » Et vous aurez du mal à accepter parce que vous n'avez pas eu de moment où vous avez dit « j'accepte tout ce qui était avant moi ». Ça serait quelque chose qui pourrait être intéressant dans un État pour qu'on choisisse. Parce que sans choix, on est toujours à reculons. On est toujours en train de dire oui mais. Et dans la foi chrétienne, j'aimerais vous dire, nous avons toujours le choix. Et c'est important que si on veut marcher, on dise oui. Et que si on ne veut pas marcher, on dise à Dieu, ben, voilà les raisons pour lesquelles je ne veux pas marcher. Ou... Et c'est un choix qui continue. Ce n'est pas parce que vous allez dire, ah j'ai été baptisé, donc il faut que je le fasse. Non, je suis désolé, ça ne marche pas comme ça la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est un choix personnel que vous avez à vivre devant Dieu. C'est pas finalement d'être gentil avec les autres pendant le dimanche, puis après de dire, ça, je m'en moque. Est-ce que vous dites oui au commandement de Dieu ? Est-ce que vous dites oui à son enseignement supplémentaire qui va être ses commandements d'amour ? Ça va être tout ce processus et je dirais, faites ce processus pas à pas. Si vous êtes dans cette alliance en disant oui vraiment, je suis tout ce que Dieu fait, et il n'y a aucun problème. Dans ce cas-là, très bien. Si vous êtes dans des tensions, avancez pas à pas. Pour vraiment faire alliance avec Dieu en reconnaissant où vous êtes, plutôt que de prétendre être ailleurs. Dieu n'est pas intéressé par des gens qui vont parler et leur cœur est loin. Dieu est intéressé par des gens qui vont être cohérents. Et c'est ça que Dieu cherche. Des personnes qui vont être cohérentes et qui vont réfléchir, qui vont argumenter avec le texte biblique, avec Dieu, avec les chrétiens, et qui progressivement vont dire « Ok, ce point-là, j'accepte. » Et progressivement arriver à un moment où dire « Je peux dire du 100%. J'ai compris, je vois que c'est bon, je me lance. » C'est progressif. Et il y a de la valeur à reconnaître où nous sommes. Et progressivement de donner un assentiment, pas à pas, à mesure qu'on avance, pour arriver au moment des 10 commandements où on dit « C'est bon, je vois que c'est du bon, tout ça, je peux dire « Amen », qui veut dire « Je suis d'accord ». « Amen » en hébreu, c'est pas un gentil mot, ça veut dire « C'est vrai, c'est juste, je suis d'accord, j'agrée, à 100%. » C'est comme si vous disiez « je vote oui ». Donc, pour vous rappeler, le « Amen » est vraiment « Je suis d'accord ». Et je le vis, je ne vais plus ensuite critiquer ces choses, je vais les faire miennes. Mais ne dites pas votre « Amen » quand vous n'êtes pas prêt. Dites-le quand vous serez prêt, du fond du cœur. Maintenant, on va voir les 2 premiers commandements. Alors, on va faire sous forme de jeu. Et en même temps que nous commençons, vous avez une idée pourquoi je vous ai donné 2 feuilles ? Ceux qui me connaissent un peu, ils se doutent de la ruse. Alexandre, qu'est-ce qu'il y a ? Et enseigner quelqu'un. Mon but est toujours que vous appreniez et que vous puissiez enseigner à quelqu'un d'autre. Les 10 commandements font partie des fondations de la société occidentale. Ça a été l'un des textes les plus importants pour définir les droits de l'homme dans le monde français. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est un des textes qui a eu le plus grande influence. Et je dirais, est-ce que je peux vous mettre au défi d'enseigner ça dans la prochaine semaine à une personne? Si vous voulez plus qu'une personne, vous pouvez faire. Ça n'a pas besoin d'être quelqu'un, un étranger, ça peut être un ami, ça peut être la personne la plus proche de vous. Si possible, là, pour Thierry et Sandrine, ça ne peut pas être l'un l'autre. Là, vous devrez trouver quelqu'un d'autre, mais avec les enfants, vous avez de la place. Pourquoi est-ce que je fais enseigner? Parce que tant que vous n'enseignez pas à quelqu'un d'autre, votre connaissance est superficielle. On ne connaît jamais aussi bien que quand on explique à quelqu'un d'autre. Je ne vous demande pas d'expliquer parfaitement, je ne vous demande pas de prétendre, je vous demande juste d'essayer. Et en même temps que vous allez essayer, vous allez trouver, réfléchir. Quand on essaye d'enseigner à quelqu'un, on est forcé de réfléchir un cran de plus. Vous pouvez vous lancer là-dessus? Hein? On va regarder ensemble. Alors, le premier commandement, c'est, je vais vous faire lire les versets. Alors, on va commencer par Thierry. Vous allez prendre vos Bibles, ceux qui ont une Bible. Qui n'a pas de Bible avec soi? Ok, tu n'as pas de Bible? Laurence, tu peux partager? Très bien. Super. Colline, tu as une Bible? Tu peux emprunter peut-être celle à ta gauche. Je pense que personne ne sera pas... Voilà, bah Alexandre, oui, vous groupez ceux qui n'ont pas... Super, tu peux lire avec Lily. Alors, Thierry, je vais te demander de nous lire le verset numéro 3. Oui. Exode, chapitre 20, pardon. Chapitre 20, verset 3.
Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi.
Voilà. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. On va apprendre sous cette forme-là. Est-ce que vous pouvez tous répéter avec moi? Commandement numéro 1, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi.
Commandement numéro 1, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi.
J'ai mal entendu, tous ensemble.
Commandement numéro 1, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi.
Excusez-moi, j'ai vraiment des oreilles qui vieillissent, j'ai plus de 40 ans. Qu'est-ce que vous avez dit? Voilà. On joue ensemble. Mais derrière le jeu, finalement, la mémoire fonctionne toujours beaucoup mieux avec l'aspect auditif et ce qu'on appelle kinesthésique, ceux qui font de l'enseignement. Certains d'entre vous apprendront beaucoup mieux en répétant. Et je dirais tous, on s'amuse, on joue. Ne soyez pas stressés, je sais, certains ont des idées du culte, ça doit être très sérieux. Je suis très désolé, ça n'a pas besoin d'être très sérieux. On peut jouer ensemble, ça ne pose pas de problème. Le but, c'est qu'on apprenne ensemble et qu'on réfléchisse ensemble et qu'on puisse, par la grâce de Dieu, avancer ensemble, en tant que communauté. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, c'est finalement l'image, vous voyez ce que c'est? C'est ce grand 1. Il n'y a pas d'autre image. Dieu veut être le numéro 1. Pourquoi? Parce que si c'est autre chose notre numéro 1, si c'est quelque chose d'imparfait, on va avoir des problèmes. Si mon numéro 1 dans ma vie, c'est mon épouse Sandra, qui est quelqu'un que j'estime beaucoup et que je trouve quelqu'un de très bien. Mais si c'est elle le numéro 1, et que j'imagine, ou que Sandra, moi je suis son numéro 1, et puis un jour je me mets en colère avec quelqu'un, ça veut dire qu'elle va se dire, c'est lui que je dois imiter. Quand on me dit le numéro 1, c'est lui la référence. On a besoin de référence dans nos vies. Si une personne est notre référence et que c'est une personne humaine imparfaite, qu'est-ce qui va se passer? Ces imperfections vont avoir un impact sur nous. Si je dis que mon numéro 1 dans ma vie, c'est telle personne, ça va être tel acteur, tel chanteur, telle chanteuse. Puis que ce chanteur, il va se saouler et il va insulter son ami ou qu'elle va se droguer et faire du mal à son enfant. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Que c'est ok, que c'est pas grave de faire ça? Si notre référence est imparfaite, notre vie sera imparfaite. C'est pourquoi Dieu dit, je veux être votre numéro un. À l'époque où ce commandement a été donné, on était dans un monde où il y avait ce qu'on appelait le polythéisme, plusieurs dieux. En Israël, il y avait plusieurs dieux, et en Égypte, il y avait des dieux, par exemple, comme Baal. Baal, lui, il disait, si vous voulez avoir une bonne récolte, il va falloir qu'il y ait des prêtresses qui soient un peu particulières. Si vous voulez que la terre, elle porte beaucoup de fruits, il va falloir aller coucher avec ces femmes. Si vous n'allez pas coucher avec ces femmes, vos champs n'auront pas de fruits. Ça s'appelait comment, ça ? La prostitution sacrée. Il y avait des femmes prostituées, il y avait des hommes prostitués sacrés. Vous auriez voulu, vous, être celui sur qui toute la ville va passer ? Pour la prostitution sacrée ? Avec des enfants qui vont ensuite, on ne sait même pas qui sont les parents ? Alors, il n'y avait pas le chaos, c'était structuré, ça marchait, mais c'était dégradant pour tout un groupe de la population. Et c'était même malsain pour les couples. Parce qu'il y avait des hommes qui, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils voyaient qu'il y avait une nouvelle prostituée sacrée qui était jolie. Imaginons qu'on est à ce temps-là, et que, Thierry, tu vois, il y a une nouvelle prostituée sacrée de la ville.
Pourquoi Thierry ? Il y a d'autres hommes, là ?
Il n'y a pas d'hommes mariés, et puis il n'y a pas de femme avec qui je peux pousser le bouchon. Donc, Sandrine, tu es... On va faire autre chose. On va faire dans l'autre sens. Des fois, il y avait des hommes prostitués sacrés. T'as un superbe jeune homme. Il ressemble à Leonardo DiCaprio.
Ah non, j'aime pas.
Non. On va essayer de trouver celui que t'aimes bien. Et il ressemble à lui. Il est gentil et tout. Et toutes les femmes qui veulent peuvent aller à lui pour ensemencer les champs, pour que le travail du mari fonctionne bien. Tu serais content, Thierry, toi ? Non. Ça, c'était le moins pire. Le pire était le dieu Molech. Le dieu Molech, vous savez comment ça fonctionnait ? Le dieu Molech, lui, c'était le dieu de la guerre. Vous vouliez gagner vos combats, gagner vos contrats, gagner vos défis ? C'était pas compliqué. Molech, c'était le spécialiste de ça. Pour gagner vos combats à la guerre, il y avait juste une petite chose à faire. Juste une fois et puis après, c'était réglé. Quand vous aviez vos enfants, vous preniez votre fils aîné. Vous alliez au prêtre de Molech et vous donniez votre fils pour être tué. Et il le sacrifiait, il le tuait pour rendre Dieu acceptable. Molech, c'était ça à l'époque. Quand Dieu dit « pas d'autre idole que moi », il n'est pas en train de dire « c'est ok si vous avez des idoles ». Il est en train de dire « si ça va être autrement, ça va tourner vers la prostitution et le meurtre. Et moi je ne veux pas. Je ne veux pas que vos enfants soient tués ». Et Pharaon, lui, avait droit de vie ou de mort sur les enfants. Et Dieu a été obligé d'avoir une mesure très dure avec Pharaon pour qu'il lâche son peuple. Et vous voyez un petit peu le contexte ? Cette violence qui était à l'époque ? Mais je vais être honnête avec vous, cette violence n'a pas disparu. Au XXe siècle, dans la religion hindoue, vous savez ce que c'était le sati ? Qui a entendu parler de ce que c'est le sati dans la religion hindoue ? Le sati, c'est quand un homme meurt, qu'est-ce qu'on fait de son épouse ? On la met sur un bûcher et on la brûle. Ça va être les premiers missionnaires en Inde qui vont commencer à se battre contre cette pratique. Et quelques personnes hindoues vont commencer à suivre le chemin. Ça, c'est gentil. Le pire, vous savez ce que c'est ? Une déesse qui est encore une des déesses révérée, mais on n'en parle pas trop ouvertement dans l'hindouisme. Elle s'appelle Kali, c'est la déesse aux six bras, qui danse comme ça, très sensuelle. Elle, c'est la déesse de la destruction. Et il y a eu des offrandes d'enfants qui étaient tués. On n'en parle pas aujourd'hui. On était en Ouganda avec mon épouse. En Ouganda, il y a des enfants qui sont tués pour donner une bonne fondation à un bâtiment. Il y avait un bâtiment, une fois, qui s'est écroulé en Ouganda, à Kampala, la capitale. Vous savez ce qu'on a donné comme conseil à celui qui avait construit, qui était suisse ? On lui a dit, t'as pas fait les bons sacrifices. Et ils se sont dit, on va être sympa, c'est un nouveau dont il connaît pas très bien nos trucs, qui sait pas très bien comment on fait des bâtiments solides. Donc ils lui ont donné la méthode sympa, ils lui ont dit, essaye avec une vache, ça devrait peut-être marcher. Ils lui disent pas ce que eux font. C'est une réalité, encore aujourd'hui. Ils savent très bien que s'ils en parlent, beaucoup vont les critiquer. mais dans leur communauté, ils savent que c'est drôlement efficace. J'aimerais vous dire, il y a un monde spirituel. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont voir des voyants. C'est pour ça qu'ils jouent, des gens jouent avec des tables qui tournent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un monde spirituel. Le problème, c'est que s'il y a un monde spirituel, il y en a qui sont plus ou moins forts dans ce monde spirituel. Et il faut être un imbécile pour aller s'amuser avec l'esprit des morts. C'est comme si vous vous dites, je vais aller dans un nouveau pays, puis je vais m'amuser, je vais faire des trucs sans apprendre les lois du pays, sans apprendre comment ça fonctionne. Et puis on va voir. Il y a des gens qui deviennent fous avec ça. Il y a des gens qui perdent la raison. Avec ces dizaines de milliers de voyants en France, combien de personnes ont perdu leur santé mentale dans ce processus ? Avec des malédictions sur leur famille. Je connaissais des guérisseurs. Alors guérisseurs, ça c'est bien, on dit, parce qu'ils font du bien aux gens. La question c'est comment on guérit ? Et j'avais une dame en Suisse qui m'expliquait, pour guérir, elle était guérisseuse de mère en fille. Elle devait invoquer quelque chose qui était, semble-t-il, pas mauvais. J'aimerais vous dire que ça, c'est aussi de l'idolâtrie. Elle invoquait celui qui a tué Judas. C'est qui a tué Judas ? C'est Dieu. On est d'accord ? Hein ? Donc, elle invoque Dieu. Ça vous va, ça ? Il y a un seul petit problème. Ce n'est jamais Dieu qui a tué Judas. Dieu n'avait aucune affaire là-dedans. Judas a laissé le diable entrer en lui et s'est suicidé. Qui c'est qui a tué Judas ? Le diable. Qui est-ce qu'on invoque quand on invoque celui qui a tué Judas ? Le diable. Et cette dame vit encore des malédictions sur sa famille encore jusqu'à aujourd'hui et se bat spirituellement en tant que chrétienne parce qu'elle voit les conséquences néfastes cachées derrière toutes ces petites bénédictions. Parce que le diable, son but, c'était de faire des gens des drogués. La différence entre la foi chrétienne et le diable, ou les mauvaises influences dans notre monde, c'est que dans la foi chrétienne, vous ne serez jamais des esclaves. Dans la foi chrétienne, vous ne serez jamais obligé de rester chrétien. Vous aurez le choix jusqu'au bout de votre vie. Dans les idolâtries variées qui existent dans ce monde, plus vous vous soumettez à l'idole, plus vous avez besoin de l'idole pour arriver à avancer. C'est ça la différence. Même quand Paul dit « je suis esclave de Jésus », ça veut dire qu'il choisit de servir Jésus jusqu'à sa fin de sa vie. Mais jusqu'à la fin, il a le choix. Jusqu'aux dernières secondes de sa vie. Et ça, c'est pourquoi Dieu nous invite à ne plus avoir d'idole, ne plus avoir de choses qui nous contrôlent dans notre vie, à être vraiment libres, à ne plus être des drogués, à respecter joyeusement les commandements qui nous sont donnés. On voit que ça met du temps, ça ne vient pas tout seul, ce respect joyeux. Mais quand on est adulte, on entre dans cette liberté. Donc vous pouvez répéter après moi à nouveau, le numéro 1 c'est quoi ? Ok. Rappelez-vous que je vais faire répéter l'un après l'autre, donc préparez-vous, hein. Donc, Lily, tu te prépares, c'est nouveau pour toi. Mais si on ne sait pas, on a le droit de demander à quelqu'un d'autre. Mais essayez chacun de vous préparer pour qu'on puisse. Il n'y a pas de fouet, il n'y a pas. Et c'est amical.
Pas la première fois.
Pas la première fois. Alors, la deuxième image, c'est quoi comme dessin ? C'est quoi comme statue ? En jaune, orange. Alors, un veau d'or, c'était une façon de représenter les vaches comme des divinités à l'époque. Cette sorte de cercle, c'était en Égypte, ça, qui faisait les vaches avec une sorte de cercle au-dessus de la tête qui représentait finalement cette divinité. Alors, je crois que c'était la vache de Apis, le dieu Apis. Et là, vous avez la croix pour dire pas de divinité. Non seulement on peut s'imaginer des divinités comme le soleil, la lune, mais aussi on peut se fabriquer des divinités. Une des divinités qu'on se fabrique le plus facilement dans ce monde, vous savez laquelle c'est ? Elle a été faite en quoi, cette vache ? À votre avis ? En or. L'idole la plus classique des vies dans ce monde aujourd'hui, c'est l'argent. L'argent. De vivre pour avoir plus d'argent. Et notre monde nous y encourage. Vous savez comment on nous encourage à ça ? on gagne un petit peu plus d'argent. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un peu plus d'argent? On prend un appartement un peu plus grand. Puis quand on a un peu plus d'argent, on a une voiture un peu plus grande. Dès qu'on a plus, on le prend pour nous. Mais qu'est-ce qui se passe si à un moment donné dans notre vie, on a un petit peu moins d'argent? Qu'est-ce qui va se passer? C'est une catastrophe dans une vie quand on commence à avoir un petit peu moins d'argent. Le monde moderne essaye de nous dire gagner un peu plus, c'est la norme, et ne nous fait jamais réfléchir au fait que si on a un peu plus, c'est peut-être pour quelque temps, c'est peut-être pour aider quelqu'un, c'est peut-être pour avancer ensemble. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens, quand ils commencent à avoir un peu moins d'argent, c'est la catastrophe. Prenons l'exemple des entreprises dans notre monde. Dominique, ta petite entreprise, si vous avez 10% de plus de revenus que de dépenses tous les ans, est-ce que ça va être un problème, ça? Si pour un an l'an prochain, vous avez 10% de dépenses en plus que de gains, est-ce que ça va être un problème? Oui.
Il y a une limite que je ne peux pas dépasser.
Qu'est-ce qui va se passer assez rapidement?
À un moment donné, on devient déficitaire.
Et si tu es déficitaire?
Si on est déficitaire, il faut appliquer des mesures.
Quelles mesures?
En général, mesure numéro 1, licenciement.
On licencie, et quand on a licencié, qu'il y a toujours négatif?
On continue jusqu'à ce qu'à un moment donné, de toute façon, l'entreprise se ferme.
L'entreprise se ferme. Et souvent, là, c'est la méthode douce, mais il y a des entreprises, quand ça devient négatif, elles sont tellement peu préparées à cela qu'elles sont obligées de fermer tout de suite. Et Lily, tu connais au niveau comptabilité, toi? Comment ça se passe si un restaurant n'a pas assez d'argent pendant plusieurs mois? Qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas continuer. S'il a un peu plus d'argent, combien de temps il peut vivre en ayant un peu plus d'argent tous les mois? Tout le temps. Combien de temps, en général, un restaurant qui n'a pas assez d'argent arrive à tenir? Combien d'années il arrive à tenir en ayant un bilan négatif? Une année? 6 mois? Tu dirais 6 mois? Ouais, tu sais pas. Ça dépend des gens, parce que certains vont avoir des économies dans leur restaurant qu'ils vont vouloir mettre parce qu'ils ont confiance que le restaurant va mieux marcher. Mais concrètement, dès que ça devient négatif, tout se casse. Parce que dans notre société, on est toujours en train d'utiliser, dès qu'on a de l'argent, on veut l'utiliser. On ne fait pas d'économie. On nous encourage à dire, c'est bien de dépenser tout votre argent. J'aimerais vous dire, non, ce n'est pas bien de dépenser tout son argent. De s'aider mutuellement, d'avoir un peu de réserve pour aider d'autres, c'est quelque chose de positif. Et tout gouvernement qui n'a pas cela est un gouvernement en problème. Le gouvernement en France s'en sort parce qu'il y en a d'autres qui ont des réserves qu'ils peuvent aider à prêter au gouvernement. Mais le moment où il n'y aura plus de réserve, le gouvernement va se casser la figure. Là où il ne pourra plus emprunter, s'il est en déficit, il va se casser la figure. Et c'est une catastrophe pour un gouvernement. On l'a vu récemment pour la Grèce, pour l'Irlande. C'est des cas concrets. L'idole la plus grande qui est connue aujourd'hui, c'est l'argent. Mettre l'argent comme numéro un. Dire, je vais vouloir tel métier parce qu'avec tel métier, je vais gagner plus d'argent. L'argent est bon, ça peut être un outil très fort, c'est un outil important. C'est un très bon outil, un très mauvais maître. Très bon outil, très mauvais maître. Donc, Jésus a dit, tu ne peux pas avoir deux maîtres. Si tu aimes l'un, tu mépriseras l'autre. Et si tu n'honores pas, si tu aimes l'un, tu ne pourras pas respecter l'autre en parallèle. Vous ne pouvez avoir qu'un seul maître. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se fasse d'idole. De mettre dans nos vies des choses en premier qui sont des choses. Vous pouvez répéter après moi le deuxième? Alors, je vais demander à Sandrine de nous lire les versets 4 jusqu'à 6. C'est tellement important qu'on a 3 versets pour ce...
Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération de ceux qui me haïssent. mais j'agis avec amour jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements.
Merci. Dieu est en train de dire quelque chose de paradoxal. Il dit qu'il punit sur 3 ou 4 générations et qu'il bénit sur combien de générations ? C'est pas pareil, vous avez vu la différence. Alors en général, les gens modernes, vous savez comment on lit ? Une personne moderne se prend pour Dieu. Ça, c'est une règle de base. Prenez ça comme base, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Une personne moderne, en général, dans notre société, on se prend tous pour Dieu. On va juger le gouvernement, on va juger les lois, on juge de tout. On se dit, on est capable d'évaluer par nos propres forces qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. On ne se pose jamais la question s'il n'y a pas des gens qui sont plus à même d'évaluer que nous. C'est une habitude, je dirais, internationale aujourd'hui. On se prend pour Dieu. Comment ça se passe quand on lit la Bible, quand on se prend pour Dieu ? On lit avec des lunettes, on cache la lunette positive et on regarde tous les endroits où on le juge Dieu, on va se dire, il n'est pas droit. Je ne regarde pas la gentillesse, je regarde tout le tordu. Alors, en tant que Dieu, moi je commence à regarder cet autre qui prétend être Dieu. Il dit, oh, Dieu jaloux, ouh, c'est pas bon ça, hein ? Qui punit sur 3 ou 4 générations. Aïe, 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 non seulement il punit celui-là, mais il punit même le petit-fils qui n'a rien fait. Moi, je suis plus juste que ça. On ne se pose jamais la question, est-ce que moi, je serais prêt à bénir des milliers de générations ? Premier point. On dit, ouh, c'est négatif. Parce que nous nous positionnons comme juges. Quand nous avons nos chaussures dans les chaussures de juges, on se prend pour qui ? On se prend pour le bon Dieu. Il n'y a pas d'autre expression. On se prend pour le bon Dieu, messieurs, dames. Et finalement, c'est ce que nous faisons avec beaucoup de naïveté et beaucoup de sincérité. Oh, le méchant Kadhafi ! Oh, le gentil Sarkozy qui vient d'envoyer les avions sur le méchant Kadhafi qui va taper dessus. Ouh là là, moi c'est un casse-tête la Libye, je prie pour ce peuple. J'ai tendance à me dire, peut-être qu'il va sortir du bon de voir que tel gouvernement va attaquer de tel autre côté. Mais c'est difficile à discerner. Qu'est-ce qui va en sortir après ? Est-ce que vous savez ce qui va en sortir de ça ? On ne sait pas. Et c'est pour ça que moi, au lieu de me présenter comme juge, quand je lis les nouvelles, j'essaye de prier. Je prie. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié de ce peuple. S'il te plaît, aide-les à trouver ce qui va être bon pour eux. Et c'est un des points où les personnes dans ce pays-là avaient eu un certain bon sens en disant que les internationaux ne viennent pas en force. Et laissez-nous essayer de régler ça, même si c'est difficile. Et c'est complexe. C'est des situations complexes. Plus vous avancez dans votre vie, j'espère, plus vous aurez du bon sens à vous prendre conscience que vous, quand vous mettez les pieds dans les chaussures de juge, vous allez forcément dire des bêtises et en dire des kilos. Et il n'y aura qu'une seule façon d'arriver à rester juge. Il faudra que vous ayez une mémoire très limitée pour oublier de votre stupidité. Parce qu'une fois que vous direz « Oh, le méchant un tel », puis après, ça sera « Oh, le méchant suivant », puis après, vous serez le bon Dieu qui donne les bons points et les corrections. Ce n'est pas notre problème. Les chrétiens, notre but, ce n'est pas ça. C'est d'apprendre à dire « Qu'est-ce que toi, tu vois, Dieu ?» De ne pas se prendre pour Dieu. Donc, les plus grandes idoles, c'est l'argent et nous-mêmes. Hein ? Et une des façons, maintenant, je vais vous donner une des raisons pour lesquelles cette troisième et quatrième génération est compréhensible. Dieu, pour moi, est le meilleur pédagogue que j'ai jamais vu. Et une des choses qui me frappe, c'est qu'il dit, à l'époque, il y a 3 ou 4 générations qui vivent ensemble, sous le même toit. Le grand-père vit avec le fils, le grand-père vit avec le père, le fils et le petit-fils. On a 3 à 4 générations sous le même toit. Quand Pépé fait quelque chose, le petit-fils et l'arrière-petit-fils, ils voient le pépé faire ou la mémé faire. Si la mémé insulte sa fille, l'enfant le voit. Et il y avait une histoire, un père qui est avec son père et son fils. Ils sont à table et le grand-père vit avec les parents. Mais dans cette famille, le papa qui est disons un âge adulte, il voit son papa qui est vieux et puis son papa il a plus de dents. Vous savez ce qui se passe quand on a plus de dents? À l'époque où il n'y avait pas de dentier, ça devient plus difficile de ne pas faire de bruit quand on mange. Quand il prend sa soupe, il a plus de mal à manger, le pépé. Alors quand il prend la soupe, il fait... Vous avez déjà entendu des gens qui font comme ça? Puis à un moment, le papa, il en a marre. Il lui dit, Pépé, tiens, je te mets sur la petite table avec la petite cuillère en bois, mange là-bas, et nous, on mange à table. À la fin du repas, le fils tire la manche de son papa et lui dit, papa, tu pourrais garder la cuillère et en bois et la petite table quand Pépé sera plus là? Tu m'as dit qu'un jour, il mourrait. Il lui dit, oui, si tu veux, pourquoi tu voudrais? Comme ça, quand tu seras vieux, je pourrais te la donner à toi. Si nous méprisons et nous avons un exemple mauvais, la génération suivante va suivre cet exemple. Et sur 3 ou 4 générations, le péché se transmet, parce que c'est des exemples. Et il ne faut pas réfléchir longtemps pour voir que dans les familles, les enfants commencent par imiter les péchés des parents avant d'imiter les bonnes choses. Si vous vous mettez en colère un peu vite, je vais vous dire, les enfants, ils vont le voir. Et ils vont imiter ça avant d'imiter les bonnes choses. Votre générosité, votre attention, les points positifs. Ça mettra beaucoup plus de temps. Et ça, c'est dur pour les parents. Ça, c'est dur. Parce qu'on se dit, je fais tellement de bonnes choses. Et qu'est-ce qu'ils font, mes enfants? Ils attrapent mon petit défaut. Et on se dit, quand même, c'est pas juste. Ça marche comme ça. Parce que le péché est beaucoup plus facile à imiter. Faire du mal prend beaucoup moins d'efforts que d'apprendre à faire le bien. Apprendre à aimer, c'est tout un apprentissage. Je vous laisse regarder dans vos vies comment cela se met en pratique, comment ça se passe. Alors, est-ce qu'on doit se battre contre nos péchés? Oui. Mais regardez chez les enfants comment ils imitent les aspects négatifs en premier. C'est frappant. Et on voit que finalement, la punition que Dieu donne, c'est une punition qui dit... Ce péché, finalement, c'est vous qui le transmettez. Mais moi, s'il y a quelqu'un qui dit du bien, qui fait du bien par son exemple, je vais transmettre, soutenir, aider à ce que cet exemple se propage à travers des centaines et des milliers de générations. Abraham a fait le bien. Il est mort il y a à peu près 3000 ans, Abraham. S'il a fait le bien et qu'il n'a pas eu d'idole, et qu'il est béni sur plusieurs milliers de générations. Ça va s'arrêter quand, la bénédiction qui est issue d'Abraham? Une génération, disons que c'est 20 ans. Qui peut me faire un calcul mental? 20 ans pour une génération, 1000 générations, ça ferait combien? 20 000 ans. Donc de moins 3000, moins 2000, disons moins 2000 pour Abraham, s'il a vécu en l'an moins 2000. Quand est-ce que les bénédictions issues d'Abraham s'arrêteront au plus tôt? En l'an combien?
En l'an
18 000. En l'an 18 000, au minimum, parce qu'il dit dans des milliers de générations. Vous voyez la disparité? Vous voyez la différence? Ce que Dieu est en train de dire, c'est que l'amour sera victorieux. L'amour sera vainqueur sur le péché. La fidélité sera vainqueur sur l'infidélité. Dans notre monde, le mal, à court terme, est-ce qu'on a l'impression qu'il est vainqueur? À court terme, on a l'impression, des fois, que le mal est plus fort que le bien. Ce que Dieu nous dit, c'est si vous vous accrochez à moi, moi je vais vous aider à ce que le bien soit vainqueur. Jésus, est-ce qu'il est mort dans son lit? Béni par tous les leaders de l'époque qui sont venus les uns après les autres, les responsables des différents gouvernements lui demandaient la bénédiction. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Non. Il s'est fait mettre sur une croix pour mourir comme un esclave. Le mal a eu raison à court terme avec Jésus. Est-ce que les paroles de Jésus ont été oubliées? Est-ce que vous pensez que dans 2000-3000 ans, il y a des chances que ces paroles soient encore aussi vivantes? Probablement. Le mal, sur le court terme, a eu la victoire. Sur le long terme, il n'a pas eu la victoire. Dans vos vies, vous allez expérimenter cela. Dans vos vies, vous allez voir comment les choses mauvaises, ou bien qu'on vous avait faites, ou bien qu'on vous a faites, à court terme, c'est très douloureux. Mais si vous êtes fidèle à Dieu, vous allez être surpris de voir qu'il y aura des bénédictions à long terme. Est-ce que vous aimez bien les problèmes dans vos vies? Qui aime bien souffrir, avoir des difficultés? Levez la main. Vous en voulez, vous? Tu veux des difficultés, Colin?
Pardon?
Do you want hardships?
Ah non.
Personne n'en veut, et c'est du bon sens. Celui qui dit « j'aime la souffrance », il y a un moment, les chrétiens s'étaient dit « ah ben oui, comme si on souffre avec Dieu, il y aura des bénédictions, on veut souffrir beaucoup pour qu'il y ait beaucoup de bénédictions ». Donc, à un moment dans l'histoire du christianisme, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis des ceintures avec des pics dedans, et ils les serraient. On a vu un film où ils montrent ça, le Da Vinci Code. Il y a certains un peu extrêmes, hein. Où le gars, il se mettait une sorte de ceinture sur la cuisse pour se faire rentrer des pics dans la jambe. Rien qu'à voir le truc, on se dit, c'est complètement tordu, quoi. Pourquoi? Parce qu'il s'imaginait, ce gars-là, que plus il souffre, plus il y aura de bien pour lui. Plus il va expier les péchés. Ça ne marche pas comme ça. La souffrance, on ne la choisit pas. On accepte ce qui nous arrive et on essaye, nous, de faire du bien. En ayant confiance que le bien, ça va être sur des milliers de générations. Et c'est un texte qui est très actuel. Vous pourriez répéter après moi, deux, tu ne feras pas d'idole. Ok. Alors, on va faire un petit jeu, juste pour les 1 et 2, c'est facile. Vous fermez tous les yeux, comme ça vous ne voyez pas. Sauf moi, j'ai le droit de regarder les yeux ouverts pour vérifier que vous fermez bien les yeux. Alors, le côté de Lily et de Thierry, vous fermez les yeux? Je fais rien, je viens pas vous chahuter, je viens pas vous prendre quelque chose. Alors, de ce côté-là, c'est quoi le premier commandement?
Tu n'auras pas d'autre Dieu
que moi. Ok, j'ai mal entendu.
Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi.
Allez, tous les trois ensemble.
Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi.
Ok. De l'autre côté, fermez bien les yeux. Qu'est-ce que c'est le commandement numéro 1?
Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi.
Très bien. On va continuer avec ce côté-là. Refermez les yeux. C'est quoi le numéro 2?
Tu ne feras pas d'idole.
Voilà. Pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole. On va passer au troisième commandement. Troisième commandement. Est-ce que Lily, tu pourrais nous lire Exode chapitre 20, verset numéro 7? Merci. Donc, il y a des gens, des fois, qui utilisent le nom de Dieu à la légère avec des insultes. Vous avez déjà entendu des gens qui vont même essayer de vous humilier en utilisant le nom de Dieu? Ou faire des jurons. Parlons-nous. Et puis, il y a Dieu au milieu de ça. Vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous croyez que Dieu, il est au milieu de cette colère, à votre avis? Il n'a rien à voir avec ça. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On abuse du nom de Dieu, puis on dit « Dieu, il est là-dedans ». Et il fait un truc qui est problématique, c'est qu'il y a des gens qui vont, au nom de Dieu, faire du mal. J'ai bien dit, au nom de Dieu, faire du mal. Je te fais du mal et si tu me fais du mal, sache que moi j'ai Dieu avec moi. Parce que c'est Dieu qui m'a dit d'aller te faire du mal. J'utilise le nom de Dieu en vain quand je fais ça. Comme si c'était une... par magie. Par magie, j'allais finalement pouvoir mettre Dieu dans ma poche et puis moi pouvoir taper dans qui je veux en disant si vous me tapez, il y a Dieu qui est avec moi. Le peuple d'Israël avait essayé d'utiliser cette technique. Vous savez comment ils avaient fait? Ils n'étaient plus très fidèles à Dieu à un moment donné, mais ils voulaient donner une raclée, battre les Philistins. Ils n'y arrivaient pas. Ils se sont dit, on va utiliser une technique. On va mettre Dieu en boîte. Or, Dieu, il n'a jamais été mis en boîte. Mais il avait dit, vous allez mettre les 10 commandements que vous avez ici et la manne ainsi que le bâton d'Aaron, vous allez le mettre dans quoi? L'arche d'alliance. Vous vous rappelez dans le tabernacle ce coffre en or avec les chérubins dessus? Donc l'armée d'Israël qui à ce moment-là n'était pas fidèle à Dieu. Elle amène le coffre, elle essaye de mettre Dieu en boîte. Elle leur dit avancez avec nous à l'armée, au combat, et on va leur donner une raclée, on va les battre à l'aise. Ils y vont avec leur coffre magique, puissant. Qu'est-ce qui se passe ? Ils se font battre à plate couture. Qu'est-ce qui se passe avec l'Arche d'Alliance ? Elle est prise comme trésor de guerre. Et les Philistins vont l'amener cette... Est-ce qu'à votre avis, Dieu, il est dans la boîte ? Ben non. Franchement, Dieu, c'est pas son but de se laisser mettre en boîte. Si c'est Dieu dont on parle ici, le Dieu créateur de l'univers, comment le créateur de l'univers va se faire mettre dans une petite boîte, même jolie ? Mais, par contre, il savait qu'il fallait respecter son nom. Et ensuite, les Philistins vont essayer d'humilier le nom de Dieu. Comment ils vont faire ? Ils vont prendre la boîte, cette boîte qu'ils considèrent comme la boîte de Dieu, et ils vont la mettre dans le temple de leur Dieu, qui s'appelle Dagon. Ah, là, c'est la victoire suprême. Notre Dieu a vaincu le Dieu des Israélites. Là, Dieu se dit, bon... D'accord, les Israélites, ils ont fait vraiment une bêtise. J'aurais jamais demandé de se battre avec leur propre force sans être fidèles. Je voulais qu'ils soient fidèles d'abord, et après, je les aurais aidés à gagner pour se protéger et pour vivre ce que je leur demandais de vivre. Mais là, il y a autre chose qui est en train de se passer. Les Israélites, ils ont reçu leur leçon. La boîte, elle n'est pas magique. Maintenant, il faut que les Philistins aussi, ils sachent qu'il ne faut pas s'amuser avec moi. Et les Philistins, la nuit après qu'ils aient fait ça, ils se réveillent, ils vont à leur temple pour célébrer, et qu'est-ce qu'ils trouvent ? Leur dieu Dagon, c'est comme une statue. La statue est tombée par terre. Cassée. Ils disent, oh là là, il y a un problème là. Hein. Cette boîte, elle commence à nous faire des soucis. Il y a notre dieu qui est tombé par terre. Alors, est-ce qu'ils ont été jusqu'à dire, bon, leur dieu est plus grand que notre dieu Dagon ? Non, ils se sont dit, on va enlever la boîte. On va la mettre ailleurs. Et après, ils ont un problème. À chaque endroit où on met la boîte, les gens ont des maladies. Oh ! Quelle peste, cette boîte ! Qu'est-ce qu'ils font ? Ils la mettent sur deux vaches et ils se disent, sur une sorte de petit chariot, avec les vaches, et ils se disent, on laisse la boîte aller où elle veut. Si elle revient vers nous, ben on verra, peut-être qu'on enlèvera l'or et puis on va essayer de faire disparaître cette boîte, on va voir, on ne sait pas. Puis si elles rentrent chez eux, on n'en veut plus de leur boîte, on veut plus de les maladies, tout ça, on en a marre. Et la boîte revient chez les Israélites. Les bœufs vont se rediriger. Et Dieu va enseigner, on ne le met pas en boîte, mais il veut enseigner qu'on n'utilise pas son nom en vain. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à respecter le nom de Dieu, à ne pas l'utiliser en vain. Il n'y a pas besoin de multiplier des paroles. Dans nos prières, des fois, on va dire 50 fois Seigneur. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de dire 40 fois Dieu dans nos prières. On peut le dire une fois. Si aujourd'hui, j'ai envie de discuter avec Yvonne, et que je suis vraiment une bonne relation avec Yvonne. Bonjour Yvonne, comment vas-tu Yvonne ? Yvonne, comment vas-tu ? Qu'est-ce que tu fais Yvonne ? Aujourd'hui, Yvonne, j'aimerais te demander Yvonne ce que tu fais Yvonne, parce qu'Yvonne, j'aimerais te poser une question Yvonne. Est-ce que mercredi, Yvonne, tu penses que tu pourrais lui dire Yvonne ? Parce que Yvonne, vraiment Yvonne. Yvonne, j'aimerais te demander, Yvonne, s'il te plaît, Yvonne, j'aimerais te demander une chose, Yvonne. Je voudrais savoir si Yvonne, tu pourrais venir, Yvonne, ce mercredi. Remplacez juste le mot Yvonne par Dieu ou Seigneur. Et vous allez voir, certains chrétiens vont prier comme ça. Et on est tenté de faire pareil. Mon but n'est pas que vous soyez maintenant dans les chaussures du juge du monde, en train de dire, pom, il fait comme ça, pom, il fait comme ça. Et moi, je suis mieux qu'eux. Je suis en train de vous dire, si vous priez, répétez pas 50 fois le nom de Dieu. Parlez-lui. Si vous voulez une relation avec Dieu, bah, cherchez une relation. Jésus critiquait ça. Il disait, ne soyez pas comme les païens qui répètent 50 fois des paroles comme si ça allait être magique. Il leur dit, parlez à votre Père avec ouverture. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il donne une façon de prier pour nous aider à prier simplement comme avec un ami. Si je suis ami avec Yvonne, je vais lui dire « Bonjour Yvonne », mais après, est-ce que je vais répéter 50 fois son nom ? Ben non. Est-ce que je vais passer tout mon temps à lui parler ou est-ce que je vais passer du temps à l'écouter ? Les deux. Et la prière, c'est les deux, de parler et d'écouter. Et donc, ce commandement nous invite à une relation saine où on ne va pas utiliser le nom de Dieu de manière qui n'est pas juste, que ce soit dans les relations avec les autres ou même dans la prière. Et il y avait un rabbi, c'était je crois un rabbi de Strasbourg qui s'appelle Rabbi, bon on va pas dire son nom, et qui disait, quand il y avait des gens qui répétaient trop souvent le nom de Dieu, ils se mettaient en colère. Arrête de dire des insultes, il disait. Arrête de dire des insultes. Pourquoi ? Parce que finalement, à répéter le nom de Dieu, ça devenait malsain pour lui. Alors c'est un peu extrême comme position. N'allez pas, quand vous êtes dans une réunion de prière, puis qu'il y a quelqu'un qui dit trois fois Seigneur, allez pas lui dire arrête de dire des insultes. Mais ensemble, apprenez aussi par votre exemple à parler à Dieu quand vous priez. S'il y a des réunions de prière, on n'est pas là pour se parler les uns aux autres. On est là pour parler à Dieu et écouter. Et s'encourager à apprendre. On apprend, ça met du temps. Donc vous pouvez me rappeler qu'est-ce que c'est le commandement numéro 3 ? Tu n'utiliseras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Alors comment s'en rappeler ? D'abord, c'est ne pas l'utiliser. Tu n'utiliseras pas. Quoi ? Le nom du Seigneur ton Dieu. Le nom du Seigneur ton Dieu. Comment ? En vain. Vous répétez après moi les trois morceaux. Premier morceau, tu n'utiliseras pas. À vous. Deuxième morceau, le nom du Seigneur ton Dieu. Comment ? Voilà. Donc, la chose à ne pas faire. Quoi ? Le nom du Seigneur ton Dieu. Comment ? En vain. Vous pouvez répéter tous ensemble le 3 au même rythme. 3. En vain. Ok. Le quatrième commandement, ça va être... Alors, le troisième commandement, j'ai oublié de vous demander, c'est quoi le dessin ? Alors, Colline et Dominique... Parce que je sais que vous savez, Colline, ça, j'ai aucun doute. Yvonne. C'est écrit Dieu en hébreu. C'est le nom de Dieu en hébreu. Une croix pour dire, faut pas le prononcer trop souvent. Le but, c'est pas magique. Parce qu'il y a des gens qui avaient cet aspect magique de se dire, si on prononce des paroles particulières, ça va marcher. Et vous savez ce qu'on appelle ça ? On appelle ça de la magie. De croire que les paroles sont efficaces, c'est magique. Qui c'est qui a le pouvoir quand on connaît la technique ? C'est moi. Si je prononce les paroles qu'il faut, je vais obtenir le résultat qu'il faut. Et je prononce les paroles et j'obtiens le résultat. Vous savez qui aimerait qu'on croie ça ? Est-ce que Dieu veut qu'on croie ces trucs comme ça ? Qui veut qu'on croie ça ? Je vais vous dire. Les démons. Parce qu'ils vous donnent l'impression d'être maître pour faire de vous des esclaves. Vous savez comment ça s'appelle un démagogue ? Qu'est-ce que c'est un démagogue, pardon ? C'est quoi un démagogue ? Un démagogue ? Non. Démagogue, alors ça vient du grec démos qui veut dire peuple et gogein qui veut dire diriger. Celui qui dirige le peuple d'une manière particulière. Un démagogue, c'est quoi ? C'est un monsieur qui séduit le peuple en leur disant les paroles qu'il faut avec un seul but, leur donner l'impression qu'il est avec eux et ensuite faire ce qu'il veut avec eux. Donnez-moi des exemples de démagogues au XXe siècle. Beaucoup de politiciens. Hitler était un démagogue. Staline était un démagogue. Les démagogues, souvent, c'est des gens qui donnent l'impression au peuple qu'il va faire exactement ce qu'il faut, ce qu'eux veulent. Et qui, quand il va être au pouvoir, ils vont être tous heureux. Les bourreaux, les gourous, tout à fait, il y aura un aspect démagogie, mais quel est le but ? De vous donner l'impression que vous avez le contrôle pour vous rendre esclave. Et je vais vous dire, les démons, c'est ce qu'ils font. Avec la magie, ça marche très bien. On vous donne l'impression que vous avez pouvoir. Vous répétez des paroles stupides ou qui n'ont rien à voir. Abracadabra, patati, patata. Et il y a quelque chose qui marche. Qui c'est qui a le pouvoir ? Je suis super fort, j'y arrive. Ah ! Mais quand ça se passe, je suis en train de reconnaître qu'il y a un pouvoir autre que moi. et que je dois faire exactement comme ce pouvoir me dit pour y arriver. Puis au bout d'un certain temps, je me rends compte que je veux un peu plus de pouvoir. Ou bien que je veux, par exemple, obtenir une méthode, et c'est comme ça que ça marche. Mais je vais vous dire, pas seulement dans la magie, dans les religions, ça marche comme ça, les gens croient que ça marche comme ça, et ils vont essayer d'obtenir des résultats. Et nous, on va essayer de faire comme ça, on va se dire, quelle est la bonne prière pour obtenir ce truc-là ? Quelle est la bonne prière pour obtenir ce truc-là ? Et des gens, des fois, mélangent la Bible, le Coran, pour faire de la magie. Vous reconnaissez la différence entre la magie et la foi en Dieu, parce que dans la magie, c'est vous le chef. Vous utilisez juste la technique qu'il faut pour obtenir le but. Dans la relation avec Dieu, c'est plus vous le chef, c'est Dieu qui est le chef. Et vous acceptez ses directions pour apprendre. Est-ce que vous voulez des bénédictions ? Oui. Est-ce que vous contrôlez Dieu ? Vous voyez la différence ? Donc c'est « Tu n'utiliseras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain ». Le quatrième point est un point aussi qui est très important. Ce quatrième point, vous voyez qu'est-ce que c'est comme dessin ? Un homme qui se repose. Alors, il est détendu ? Alors, non, il n'a qu'une barbe blanche. Jésus, il n'a pas eu le temps d'avoir la barbe blanche. On s'est débrouillé pour qu'il n'y arrive pas jusque-là, quoi. Finalement, c'est un homme qui se repose sous un arbre. Parce que le sabbat, c'est avant tout une question de repos. Et Dieu, je vous disais, c'est un pédagogue. Moi, je suis toujours époustouflé, honnêtement, et j'espère que vous serez toujours plus émerveillé par la qualité de la pédagogie divine. J'espère que vous avez pu voir un petit peu comment le tabernacle était très pédagogique. Pour comment on entre en relation, comment il y a des étapes dans la relation, comment on entre en dialogue les uns avec les autres. C'était il y a 2 semaines, il y avait le tabernacle. Vous avez vu un peu cette pédagogie divine. Sandrine, tu pourras écouter le sermon, il est sur Internet. J'ai dit si vous voulez regarder ensemble. Mais on voit qu'il y a une pédagogie divine qui utilise des exemples tout simples. Dieu ne veut pas utiliser de manière compliquée, enseigner de manière compliquée, il veut enseigner de manière simple. Et là, pour enseigner le sabbat, comment il a fait ? Est-ce que Dieu, c'est un homme ? En Jésus, oui et non. Mais le créateur de l'univers, il ne pourrait pas être créateur de l'univers s'il était parti de l'univers. S'il a créé tout l'univers, il est bien au-delà. Pourtant, dans le texte de Genèse, il est dit, Dieu créa l'univers en combien de temps ?
6 jours.
Et qu'est-ce qu'il a fait le 7e jour ? Franchement, est-ce que Dieu, il avait besoin de se reposer ? Non. Pourquoi il l'a fait ? Pour montrer l'exemple. La meilleure pédagogie, c'est de montrer l'exemple. Si vous voulez enseigner des choses aux gens sans leur montrer l'exemple, j'aimerais vous dire, votre enseignement sera une catastrophe. Sur le court terme, certains feront, mais sur le long terme, ça portera pas beaucoup de fruits. Voilà, ça c'est une démonstration qu'on n'est pas un bon pédagogue. Un pédagogue va donner l'exemple. Et même Dieu va montrer l'exemple. Alors, dans ces 6 jours, il y en a qui disent, oui, mais tu sais, la terre en 6 jours, moi j'y crois pas trop. Ben, je vais vous rassurer, moi j'y crois pas trop non plus. 6 jours, ça n'a pas besoin d'être 6 jours de 24 heures. Il n'y a aucune partie du texte biblique qui vous dit ces jours sont de 24 heures. Dans plusieurs parties de la Bible, le mot « jour » va durer longtemps. Jésus, quand il est venu, c'était dans l'Ancien Testament déclaré comme le jour du Seigneur. Jésus, il a vécu une journée. Non. Dans l'Épître de Pierre, Pierre dira « Pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. » Donc, cette question de se battre sur 24 heures dans la Genèse, j'avais un prof en Ancien Testament, Yohanan, qui nous disait « Bon, d'abord, il faut que tu rassures les chrétiens, tu leur dises, écoutez, franchement, si Dieu il voulait créer le monde en 5 minutes, il pouvait le créer en 5 minutes. Il n'avait pas besoin de 6 jours ou 7 jours. Maintenant, est-ce que la Bible nous dit qu'il l'a créé en 6 jours de 24 heures ? Ne vous inquiétez pas de ça. Il parle de jours et dans l'Ancien Testament, ça peut être des périodes. Donc, si vous voulez que ce soit des périodes, ça va. Si vous voulez que ce soit des jours, ça va. Mais ne vous battez pas sur des choses qui ne sont pas des sujets de combat pour le texte biblique. battez-vous pour les endroits où il y a des vérités à annoncer. Si on vous dit les 10 commandements parlent de ne pas avoir d'idole, oui. Ça, vous pouvez vous battre, dire oui, le texte biblique en parle. Après, vous battre contre les gens qui sont, parlent de l'évolution en disant non, il n'y a pas eu de dinosaures, non, le monde est apparu en 6 jours et l'homme ne descend pas du singe, a été fabriqué direct. Moi, ma réponse à chaque fois, c'est que mon frère, ma sœur, c'est pire que ce que tu crois. Est-ce que l'homme descend du singe ? J'en sais trop rien. C'est une théorie actuelle qui peut être juste ou pas juste. Je peux imaginer comment Dieu utilise cette chaîne pour arriver jusqu'à l'homme. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que dans le texte biblique, il nous est dit que Dieu a créé Adam à partir de quoi ?
De la poussière.
De la poussière. Donc c'est pire. C'est pire, on ne descend pas du singe, on descend de la poussière. Donc je dirais que c'est plus un sujet d'humilité que d'orgueil. Et dans cet enseignement de Dieu, en Genèse, Dieu va se reposer comme un bon pédagogue pour nous montrer l'exemple. Dieu n'arrête pas à chaque parole d'essayer de nous montrer un exemple. Parce qu'il sait que pour nous, c'est important de se reposer. Et pour se reposer, finalement, on a à apprendre à arrêter de travailler. J'ai bien dit, pour se reposer, il faut arrêter de travailler. Le terme Shabbat en hébreu, vous savez ce que ça veut dire ? Arrêter. Le Shabbat, c'est l'arrêt. On a à s'arrêter. Quand vous avez des choses au travail qui vous intéressent beaucoup, est-ce que c'est facile de s'arrêter ? Quand il y a quelque chose qui vous chagrine, je vais vous dire, un des casse-têtes les plus grands, c'est pour un pasteur d'arrêter de penser, de prier, de réfléchir pour l'église aux choses qui vont bien, qui vont pas bien. Et avec Sandra, on se prie, on dit ok. On prie ensemble et on dit ok, il faut qu'on prenne un temps, on parle pas de l'église. On parle pas des choses à faire, ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait faire, parce qu'on aime. On est heureux de faire ça. Mais en même temps, le sabbat, c'est se reposer, se réjouir, ne pas être en train de gérer des problèmes, mais se détendre. Prendre un bon repas ensemble, jouer ensemble, s'amuser. C'est ça le sabbat. On peut écouter le texte biblique, méditer, mais ce n'est pas du travail avant tout. C'est vraiment se réjouir ensemble. C'est pour ça que jouer ensemble, pour moi, un jour de dimanche qui est notre sabbat pour les chrétiens, d'apprendre ensemble en jouant, est non seulement acceptable, mais mon impression, c'est que c'est une façon très acceptable pour ce jour de détente. Donc j'aimerais vous demander, vous pourriez répéter après moi, 4, observe le jour du sabbat pour le sanctifier.
4, observe le jour du sabbat pour le sanctifier.
Ça veut dire quoi, le sanctifier ? Pour le rendre mis à part, important ? Ouais.
C'est mis à part, c'est pour pas les autres jours. Donc ici, c'est le jour du travail. C'est-à-dire
que
c'est mis à part.
Ouais.
Pour
Pour Dieu ?
Oui.
Ouais. Mis à part pour Dieu. Sanctifier en général, si vous voulez vous rappeler, qu'est-ce que ça veut dire sanctifier ? Sanctifier, c'est une racine, kadosh en hébreu, qui veut dire mettre à part pour une utilisation particulière. Mis à part pour Dieu. Et qu'est-ce qu'il veut, à votre avis, Dieu, le jour du sabbat ?
Il veut que vous n'avez pas réuni et pas les discussions paroles.
Discuter sa parole. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et après, on va faire un jeu ensemble pour tous. Donc, je vous ai prévenu pour les 4 premiers commandements. Dimanche prochain, on finira la deuxième partie. La première partie, qui est la tablette qu'on a vue, c'est tout ce qui concerne plus directement la relation à Dieu. La deuxième tablette, c'est celle qui concernera plus particulièrement la relation au prochain. Mais le dernier commandement est celui qui va faire la jonction entre la première et la deuxième table. Tout comme le numéro 5, on verra la semaine prochaine comment il fait la jonction entre la première table par rapport à Dieu et la deuxième par rapport au prochain. Comment est-ce que le sabbat fait la relation entre l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain, à votre avis? Oui. Alors l'église, allant avec une communauté Et je dirais, l'Église, j'aimerais d'autant toujours plus que vous voyez que c'est l'aspect communauté qui est là, pour qu'on soit ensemble. Parce que le but de Dieu n'est pas qu'on fasse des choses d'abord, mais qu'on apprenne à aimer. Qu'on apprenne à s'aimer mutuellement. L'Église, pour moi, c'est un terrain d'entraînement pour l'amour du prochain. Ça ne s'arrête pas à l'Église, mais ça démarre ici. Quand on est nouveau chrétien, des fois, on peut être un peu naïf. On se dit, ça va être facile. J'aimerais vous dire, non, ça ne va pas être facile. Il y a des gens avec qui ça sera facile. Il y a des gens avec qui ça sera plus difficile. Mais c'est un terrain d'entraînement pour apprendre à aimer son prochain. Ceux avec qui c'est facile et ceux avec qui c'est difficile. Parce que le sabbat, c'est s'arrêter pour vivre ensemble. Toute personne est faite pour vivre en communauté. Qu'on apprenne à avoir des relations harmonieuses avec les autres. On ne peut pas être heureux seul. On a besoin d'autres. Pour la plupart, on a besoin d'un compagnon, d'une compagne. On a besoin de frères, de sœurs dans la foi, d'amis, de personnes qui vont nous aider, de communion, de communauté. Des fois, on reçoit ça dans nos familles, des fois pas. La communauté de foi, c'est pour nous aider à vivre cette communauté de manière cohérente et simple. C'est pourquoi le sabbat, c'est un lieu communautaire. C'est un jour communautaire. Manger ensemble le sabbat, c'est bon. Est-ce qu'à votre avis, se faire nos petites colères et régler des comptes le sabbat, ça marche? C'est le bon jour pour faire ça? Non. Il y a des fois, on doit dire un peu des vérités difficiles. Il faut essayer de les dire avec amour, mais il y aura des choses à régler. Essayez de le faire un autre jour que le sabbat. Le sabbat, essayez de vivre, de vous réjouir ensemble. Je ne vous dis pas d'être hypocrite. Je vous dis d'être sincère. C'est pas de prétendre. C'est de faire votre effort pour voir le positif et célébrer le positif ensemble le jour du sabbat. Est-ce qu'il faut voir qu'il y a des problèmes, des choses à corriger? Oui, bien sûr. Mais tant que possible, essayez de développer votre capacité à vivre avec d'autres le jour du sabbat. Donc manger avec d'autres le dimanche est très adapté. Et je dirais, ça fait partie intégrante du sabbat. J'avais une amie, Ruth, qui venait du Burkina Faso. Son père était pasteur. Tous les jours après l'église, vous savez ce qu'il leur faisait faire aux enfants? Il y avait le repas, et après le repas, il avait beaucoup d'enfants. Sieste obligatoire. Que vous le vouliez ou non, que vous soyez petit ou grand, vous devez dormir. Il faut se reposer. Donc il avait la technique, faites obligation, règle. Pour tout le monde, on se repose. Ça peut aller pour le sabbat aussi, à vous de gérer. Je ne suis pas en train de vous dire si vous avez besoin de faire une sieste. Mais ça peut faire partie du sabbat. De se réjouir. Dans le judaïsme, ils disent même, la communion est importante le jour du sabbat. Je vais vous dire un truc choquant. Pour les couples unis par la grâce de Dieu, l'union physique fait partie du sabbat. C'est un bon jour pour ça. Parce que dans la foi chrétienne, des fois, on a l'impression... Il faut que ce soit bien séparé pour Dieu. Et j'en parle précisément pour ça, parce qu'on a une idée de Dieu. C'est comme si quand on est avec Dieu, on ne fait plus rien de réel. On a une vision qui n'a rien de la foi chrétienne, tout de ce qu'on appelle la philosophie platoniste. Les platonistes, ils ne sont pas des chrétiens. C'est une philosophie qui parle des idées dans le ciel et puis de la vie terrestre. La vie terrestre, c'est impur, c'est imparfait, puis il y a les idées dans le ciel. Alors quand on veut méditer la philosophie platoniste, avec Socrate, Platon, etc., on va être la tête dans les étoiles. Et on est tellement marqué par la culture grecque dans le monde occidental que beaucoup de choses sont faites suivant ce modèle. L'éducation moderne est faite suivant ce modèle. On fait quoi? 20 ans d'école ou 15 ans d'école, puis après on va faire son métier. La théorie, le mot théorie vient directement de cela, du grec théoreo, donc voir, contempler. Ça vient de la philosophie platonique. Et ensuite l'application. La façon de vivre juive et je dirais biblique dans le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus l'apprentissage. On apprend quelque chose, on met tout de suite en pratique. On apprend, on met en pratique. Il y en a certains parmi vous qui à l'école ont eu peut-être du mal avec la théorie pendant longtemps. J'aimerais vous dire, c'est pas la façon biblique d'enseigner. Dieu est beaucoup plus pédagogique dans le sens où on met en pratique tout de suite. Ça permet de garder tout le monde ensemble. Parce que le but de Dieu n'est pas de sélectionner et d'avoir des super bons étudiants, c'est que tout le monde avance ensemble. Pour ça qu'il enseigne de manière kinesthésique, auditive, avec le tonnerre des fois pour rappeler aux gens que, attention, etc. Dieu dans l'Ancien Testament, enseigne de manière très pratique. Et le sabbat, c'est un jour pour se réjouir de la communauté avec Dieu et avec nos prochains. C'est quelque chose d'important à se rappeler. Ce n'est pas pour la théorie. Avoir... Si vous vivez votre dimanche en disant « j'ai pas le temps les enfants, allez vous occuper, moi je dois méditer la Bible pendant toute la journée, fichez-moi la paix », j'aimerais vous dire, vous avez loupé le coche. C'est pas ça le sabbat. Même si ça voudra dire que vous ne pourrez pas passer du temps à méditer tout seul la Bible, parce qu'il y a des choses autour, essayez de vivre des qualités de communauté, des qualités de moment de communauté véritables. J'ai fini. Maintenant, je vais vous mettre au boulot. Vous avez combien de commandements à connaître pour aujourd'hui ? Alors, on répète une fois ensemble pour être sûr que vous êtes prêts pour le petit test, le jeu. Alors, cachez la feuille. Cachez tous la feuille. Commandement numéro 1. J'ai mal entendu, excusez-moi, mes oreilles sont vraiment pas bonnes. Une fois tous ensemble. Ok. Deuxième commandement. Voilà, on va apprendre ensemble la même parole, hein, comme ça c'est plus facile. Tu ne te feras pas d'idole. Répétez. Ok. Le troisième commandement. Tu ne feras pas quoi ? Tu ne t'humilieras pas. Quoi ? Ton Dieu. Comment ? En vain. Tous ensemble.
Tu n'utiliseras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain.
Ok. Le troisième commandement. Observe. Pardon, quatrième commandement. C'est moi qui me suis trompé, pardon. Observe le jour du sabbat. Pourquoi faire ? Voilà, pour le mettre à part, pour qu'il y ait quelque chose de particulier qui se passe. Et ce particulier se vivra dans la communauté. Et nous sommes une petite communauté quand on est ensemble. Alors, et vous serez une communauté aussi quand vous êtes chez vous. La communauté ne se limite pas à l'église. La vie de communauté, c'est vivre avec des personnes avec qui on désire développer des relations d'amitié, de respect et d'amour. Et dans la foi chrétienne, avec comme base les bases de la foi chrétienne. De respect du prochain, d'amour mutuel et d'amour pour Dieu. Alors, on observe le jour du sabbat pour faire quoi déjà ? Ok, vous avez toujours tout caché ? Alors, vous connaissez le nom de la plupart. Si vous ne connaissez pas le nom, vous montrez du doigt à la personne, respectueusement, pas avec un doigt méchant. Et je pose la question à une première personne, je lui choisis soit un commandement, un numéro, soit une image, soit un titre. Et la personne doit me donner les deux éléments qui manquent, d'accord ? Alors, je vais commencer avec Sandrine. Je vais te demander le numéro 2, c'est quoi déjà ? C'est quoi le dessin ?
C'est la vache avec...
Le truc, voilà, cette idole. Sandrine, t'es prof maintenant, tu choisis une des personnes et vous essayez d'arroser tout le monde au moins une fois. Voilà, très bien. Ouais, c'est bon. Mais c'est bon. Quand j'entends garder, respecter, honorer, observer le sabbat, pour le sanctifier. Le sanctifier, c'est vraiment le mettre à part. De dire vraiment, sur ce jour-là, je veux qu'il y ait une bonne communion avec Dieu et avec mon prochain. Ok ?
Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi.
Donc, commandement numéro 1, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est quoi le dessin ?
Alors, c'est un gros chiffre, le numéro 1.
Très bien. Dominique, c'est toi le prof ?
Alors, c'est quoi le signe du troisième commandement, Elisita ?
Le signe du troisième commandement, c'est le. C'est Dieu qui est écrit en hébreu. Et you will not use the name of your Lord or your God in vain.
Ça marche. Donc, en français, comment tu le traduirais, même si c'est pas parfait? Voilà, très bien, très bien. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Très bien. Colline, t'es le prof ? Ah, c'est encore mieux, tu donnes même pas l'image, c'est une bonne idée ça.
La deuxième image, c'est la vache en or. Et quel est le commandement ? Tu ne te feras pas d'idole.
Tu ne te feras pas d'idole. Très bien, Thierry.
L'idole. Numéro 4.
Très bien. Yvonne, t'es prof, qu'est-ce que tu... Lily, t'es prof, encore fais un ou deux et puis on va s'arrêter. Alors, deuxième. Très bien. Ok, on va s'arrêter là. Hein, donc vous avez les quatre. Vous avez une idée de ce que ça va être le sermon la semaine prochaine ? La suite. On continue. 5 à 10. Les commandements sur le prochain, qu'est-ce que c'est ? Et finalement, Jésus va partir de là. Quand on lui demandera c'est quoi la loi ? Comment tu peux résumer ? Qu'est-ce qu'il a fait pour résumer, Jésus ? On lui a demandé c'est quoi le commandement le plus important ? Il a dit quoi ? Jésus. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On se dit, c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. C'est exactement ce que vous avez dans les 10 commandements. Tout rassemblé en soulignant l'aspect positif. Et en même temps qu'on vient à l'école de Dieu, on a fini dans une minute, Frédéric. Hein. En même temps qu'on vient à l'école de Dieu, progressivement, la partie négative est intégrée et on peut se concentrer sur la partie positive. C'est le but de Dieu. Pas qu'on se concentre. Le but de la foi, c'est pas « fais pas ci, fais pas ça ». Le but de Dieu, si ça devait se résumer en un mot, ça serait quoi ? En un mot.
Un mot.
Un mot. M. Si c'était un mot, ça serait M. Avec un impératif pour dire « c'est impératif d'aimer ». Et c'est avec Dieu qu'on apprend et qu'on se met à l'école de l'amour. On est dans une société où, finalement... La notion d'aimer, les gens ne savent pas. Et vont prétendre savoir, mais franchement, la plupart des gens, beaucoup de gens qui disent ce que ça veut dire l'amour, je me dis, vous avez des parents des fois qui vont donner une claque à leur enfant et vous allez lui dire, ouh, tu as été un peu méchant là, il t'a pas, ça manque d'amour ça. Il dit, non, tu sais pas comment je fais, moi j'aime mon fils. Et là vous vous dites, d'accord, corrigez, oui, mais il faut le faire avec sagesse. Et là vous vous dites, là il y a un manque d'amour des fois. Je ne suis pas en train de vous dire, ne corrigez pas vos enfants. Ça fait partie de l'amour, mais toujours avec un cadre sain, un cadre pédagogique. Alors on va finir par un temps de prière. Et je vous exhorte et vous challenge, vous avez à faire quoi pendant cette semaine ? Vous devez enseigner à une personne. Donc dans la prière, essayez de réfléchir qui pourrait être la personne à qui vous allez enseigner. Et en même temps que vous faites ça, je vous demande de prier... Quel est le commandement sur lequel vous avez l'impression que vous avez quelque chose à apprendre, de manière pratique, concrète, pour votre semaine, pour votre vie ? Est-ce que c'est sur le premier ? Ne pas avoir d'autre Dieu que Dieu ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Est-ce qu'on est en train de se fabriquer une idole ? Ça peut être nous, ça peut être notre travail dont on fait une idole ? Est-ce qu'on a tendance à utiliser le nom de Dieu en vain ? Que ce soit dans nos prières, à répéter 50 fois le nom de Dieu ? Ou bien dans les discussions avec les gens, on utilise le nom de Dieu de manière pas juste ? Ou est-ce qu'on a du mal à se reposer le jour du sabbat ? Et à vraiment se détendre, jour, quand je parle de repos, c'est être ensemble. Pour être ensemble, sans faire de travail, à vous de réfléchir et de discerner. Maintenant, on va prier ensemble. Et je prie que Dieu vous bénisse en même temps que vous essayez d'expliquer à d'autres, de manière simple, pratique, de leur faire apprendre et de jouer avec eux. Quand vous apprenez aux autres, je vous demande de faire le même jeu que ce que j'ai fait avec vous, mais quand vous jouerez avec l'autre, vous direz, ben, on se pose des questions sur 1 à 4, et la personne vous pose la question en retour. C'est plus amusant si on fait dans les deux sens que si on est toujours celui qui pose les questions. Finissons par un mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, tu es venu pour créer une communauté, pour renouveler la communauté d'Israël avec tes 12 disciples qui ont vécu avec toi, pour qu'ils apprennent comment manger ensemble, comment avoir des temps ensemble, se réjouir ensemble, apprendre ensemble, servir ensemble, aimer de manière pure, juste et droite. Apprends-nous, Seigneur, et je te prie que tu bénisses chacun et chacune de mes frères et sœurs ici présents. Qu'ils puissent chacun discerner, qu'ils puissent discerner quels sont les points ou le point sur lequel tu veux les aider à avancer. Dans le positif, dans la vie pleine, dans une vie où on apprend à aimer, on apprend à se réjouir, on apprend à servir notre prochain, à te servir, Seigneur, toi, le Dieu d'amour, le Dieu de vérité. Bénis cette minute de ta sagesse et de ton enseignement. Amen. Je prie, Seigneur, que la douce brise de ton esprit souffle sur les journées qui viennent, tout comme ce ventilateur souffle sur nous pour nous donner un peu de fraîcheur. Je prie que la brise de ton esprit souffle sur chacun et chacune ici présent pendant cette semaine, cette brise douce de ta présence, de ta grâce, afin que nous puissions apprendre à vivre tes enseignements, non pas comme des pharisiens amers et durs qui vont essayer de punir les autres s'ils ne font pas comme eux, en faisant du sabbat une occasion de faire les super justes qui critiquent les autres au lieu de créer une communauté où il y a ta joie, ta paix et ta grâce, où il y a un enseignement, mais où il y a des guérisons, où il y a un repos, une joie véritable. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.